Et donc on va passer à la conférence de Christophe Nian, qui est professeur à l'Université de Lausanne et qui est aussi un habitué des colloques de la chaire milieu biblique. Chaque année, je crois, ou presque. Tu es venu nous honorer de ta présence et à faire des conférences très intéressantes. Et aujourd'hui, tu vas parler de textile, ligature rituelle et pouvoir féminin à propos d'Ézéchiel 13. Merci.
Merci beaucoup. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque qui est passionnant. Le titre a un tout petit peu changé, comme vous le voyez, mais on reste dans le même sujet, puisque c'est désormais « Femmes, ligatures, rituels et sorcellerie » à propos d'Ézéchiel 13. Et vous verrez qu'on va aussi rester dans le thème, disons, des femmes qui font peur et des constructions masculines que ça reflète dans les sociétés de l'Antiquité. Le thème de cette conférence me donne l'occasion de revenir sur un texte qui m'intéresse depuis très longtemps, au chapitre 13 du livre d'Ézéchiel. Ce texte fait référence à des femmes judéennes pratiquant des ligatures rituelles qui leur donnent apparemment une forme de contrôle sur d'autres membres de la communauté. Cette description est intéressante à deux titres en particulier. D'une part, si plusieurs textes de la Bible hébraïque font référence à des pratiques de ligatures rituelles pour les condamnés, cette condamnation reste le plus souvent très générale et il existe en réalité très peu de descriptions concrètes de ces pratiques dans les textes bibliques. Le texte d'Ézéchiel 13 nous ouvre par conséquent ici une fenêtre, pour ainsi dire, sur une pratique dont nous savons par ailleurs qu'elle était répandue dans l'ensemble du Proche-Orient ancien et du bassin méditerranéen et qui semble avoir été souvent associée à des femmes. D'autre part, la pratique décrite en Ézéchiel 13 fait l'objet d'une polémique dans le contexte de ce livre. Or, cette polémique, de manière très intéressante, ne porte pas tant sur l'efficacité de cette pratique, qui n'est pas réellement contestée dans le texte, comme on le verra, que sur sa finalité et surtout sur la légitimité des femmes qui en sont les agentes. À cet égard, l'étude d'Ézéchiel 13 nous introduit ici à la problématique plus large des accusations de sorcellerie dans l'Antiquité et à la manière dont la Bible hébraïque participe à la construction de cette catégorie. Alors, je commence par, vous présenter ce texte, qui n'est pas très long, mais qui est assez technique et assez complexe, donc je vais le lire brièvement avec vous, exceptionnellement, et après je ferai quelques commentaires philologiques. Et après on passera aux choses vraiment intéressantes. « Quant à toi, humain, tourne ta face vers les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leurs penchants et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé, malheur à celle qui couse des bandelettes, que ça t'ôte, pour tous les poignets et qui confectionne des coiffes, mises par haute, de toute taille, pour la tête, afin de prendre au piège des vies, ne fâche haute. Vous prenez au piège les vies de mon peuple et vous préserveriez vos propres vies. Vous me profanez auprès de mon peuple en échange de poignées d'orge et de morceaux de pain, en faisant mourir les vies, toujours ne fâche haute, qui ne devraient pas mourir et en faisant vivre les vies, ne fâche haute, qui ne devraient pas vivre. En mentant à mon peuple qui croit à vos mensonges. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé, me voici contre vos bandelettes, avec lesquelles vous prenez les vies au piège comme des oiseaux. Je les arracherai de vos bras et je délivrerai les personnes dont vous prenez les vies au piège comme des oiseaux. J'arracherai aussi vos coiffes et je délivrerai mon peuple de votre main. Ils ne seront plus une proie dans votre main. Vous saurez alors que je suis Yahvé. En effet, vous découragez le juste par des mensonges, alors que moi-même je ne l'ai pas affligé, et vous fortifiez les mains du méchant sans qu'il ne se détourne de sa voie mauvaise pour qu'il vive. C'est pourquoi vous ne verrez plus de choses fausses et vous ne ferez plus de prédictions. Je délivrerai mon peuple de votre main et vous saurez alors que je suis Yahvé. De quoi s'agit-il ? Cet oracle fait partie d'une petite collection, en Ézéchiel 12, 21 à 14, 11, qui est dirigée contre différents types de prophéties condamnées comme étant illégitimes. L'oracle qui nous intéresse, donc au verset 17 à 23 du chapitre 13, est dirigé pour sa part contre les filles de ton peuple, au verset 17, expression qui désigne ici des femmes judéennes. Il est très rare en réalité que des oracles soient adressés à des femmes dans la Bible hébraïque. Dans le cas du livre d'Ézéchiel, il n'y a pas d'autre passage du livre où ce soit le cas. Selon le verset 18, ces femmes judéennes sont accusées de coudre, ta part, des kesatot destinées à être portées au poignet, littéralement aux jointures des mains, ainsi que des misparot, apparemment destinées à être portées sur la tête. Le premier terme, kesatot, forme plurielle de keset, est à rapprocher des termes acadiens kassou, dont le sens général est lié, est cassitu, ligature, chaîne, qui sont notamment attestés dans des contextes rituels et magiques. La forme plurielle que sa tôte désigne ainsi très vraisemblablement des bandes ou des bandelettes disposées aux jointures des mains, c'est-à-dire sur les poignets. Le second terme employé au verset 18, misparot, doit probablement être rapproché pour sa part d'une racine sapar qui, en hébreu, est également attestée avec le sens de lié, attaché, dans certains contextes. Il s'agit donc également de bandes ou de bandelettes qui sont placées sur la tête et peut-être assemblées de manière à former une espèce de coiffe. La description du verset 18 continue en affirmant que ces bandelettes placées sur les poignets et la tête sont utilisées par les femmes pour chasser ou pour prendre au piège, hein, racine tsoud, les nefashotes des membres de la communauté. Le terme nefashot est la forme plurielle de l'hébreu nefesh, terme complexe, polysémique, mais qui désigne notamment la force ou la puissance vitale d'une personne ou d'un animal. Selon notre texte, la confection de ces bandelettes attachées aux poignets et à la tête confère ainsi aux femmes une forme de puissance, de contrôle, pardon, sur la puissance vitale des membres de la communauté. Les versets 20 à 21 prolongent cette description en comparant en outre la capture de la nefesh ou de la force vitale des membres de la communauté à la capture d'oiseaux, une image sur laquelle je reviendrai plus loin. Il est vraisemblable que cet oracle a fait l'objet de révisions lors de sa transmission. On trouve un indice clair de ce phénomène au verset 20 à 21. Alors que le reste de l'oracle est systématiquement adressé à des destinataires féminins, la seconde moitié du verset 20 et le début du verset 21 introduisent subitement des pronoms masculins à côté des pronoms féminins. Il est difficile de faire sens de l'alternance des pronoms masculins et féminins dans le texte des versets 20 à 21 tel que nous l'avons désormais. Je peux vous dire, je me suis cassé la tête là-dessus pendant plusieurs heures. Je ne vois pas de logique évidente. Et il est probable, en réalité, que l'oracle primitif employait exclusivement des pronoms féminins et que les pronoms masculins ont été introduits de manière assez peu rigoureuse lorsque cet oracle a été intégré aux autres oracles du chapitre 13 qui sont dirigés, quant à eux, contre des hommes. Un autre cas de révision concerne la fin de l'oracle. Comme l'ont déjà suggéré certains commentateurs, il est probable que les versets 22 à 23 ne faisaient pas partie de la composition originale, mais ont été ajoutés par la suite. D'une part, le verset 21 se termine déjà par une formule de conclusion, « Vous saurez alors que je suis Yahvé », qui est répétée avec une autre clause du verset 21 à la fin du verset 23. D'autre part, le langage du verset 23 n'a pas grand-chose à voir avec la description qui précède, mais reprend par contre la phraséologie du début du chapitre 13, notamment les versets 6 à 9, comme vous le voyez ici. En effet, l'expression « voir des choses fausses », ainsi que la référence à des prédictions mensongères ou erronées, avec la racine « kassam », sont caractéristiques du langage d'Ézéchiel 13, versets 6 à 9. Or, ce passage condamne les prophètes illégitimes et a une fonction programmatique pour l'ensemble du chapitre 13. Au vu de ces données, on peut donc considérer que l'oracle original se terminait au verset 21 et que les versets 22 à 23 ont été ajoutés par la suite afin d'aligner cet oracle avec le discours général d'Ézéchiel 13. L'oracle ancien devait donc comprendre les versets 17 à 21, comme vous le voyez ici, sans les versets 22 à 23. À présent que ces questions d'ordre philologique et textuel ont été clarifiées, nous pouvons nous tourner vers l'interprétation de ce passage et surtout de la pratique qu'il décrit. À cet égard, la principale hypothèse avancée dans la recherche récente est que le texte ferait référence à des nécromanciennes, autrement dit des femmes chargées de faire parler les morts. Cette hypothèse, qui avait déjà été avancée par Mario Korpel dans une étude de 1996, a récemment été reprise par Jonathan Stöckel et par Esther Amori en 2013 et 2015, respectivement. L'hypothèse s'appuie principalement sur l'association au verset 20 des nefashot, terme qui peut signifier la vie, mais aussi l'esprit du mort, qui sont prises au piège par les femmes avec des oiseaux. L'association de l'esprit du mort en oiseau est bien documentée en Égypte, où le Ba est systématiquement représenté sous la forme d'un oiseau, et elle est également attestée en Mésopotamie. Certains passages de la Bible hébraïque, notamment dans le livre d'Ésaïe, suggèrent que cette association de l'esprit du mort en oiseau était également connue dans l'Israël ancien. Stöckel propose en outre de rapprocher l'expression utilisée en hébreu au verset 17 pour désigner les femmes, « mitenabot », de la forme acadienne « munabiatou » dans les textes d'Emar, qui pourrait également désigner une nécromancienne. Cette interprétation, donc des femmes d'Ézéchiel 13 comme des nécromanciennes, me paraît toutefois peu convaincante. L'association entre la nefesh prise au piège, donc la force vitale ou l'esprit prise au piège et en oiseau, ne suffit pas à inférer en contexte funéraire et nécromantique. Il peut s'agir tout simplement d'une image associée à la chasse, d'autant plus que cette image est effectivement attestée dans des rituels d'exorcisme acadien, comme la série Maclou, sur laquelle je reviendrai. L'idée selon laquelle l'hébreu Mitenabot serait à rapprocher de l'acadien Munabiatou est fort douteuse, à mon sens, d'un point de vue étymologique, et il n'est même pas certain que le terme Munabiatou à Emar soit effectivement employé pour désigner des nécromanciennes, mais je laisse cette question à mes collègues assyriologues. Surtout, la référence à des pratiques nécromantiques ne fait guère de sens à la lumière de la formulation du verset 19 qui reproche aux femmes de faire mourir des nefashot qui ne devraient pas mourir et de faire vivre les nefashot qui ne devraient pas vivre. De toute évidence, l'activité des femmes ne concerne pas les esprits des défunts, mais concerne des victimes qui sont encore vivantes, puisqu'on peut les faire mourir. On notera enfin que l'hébreu biblique dispose en réalité d'une expression technique pour désigner les femmes pratiquant la nécromancie, Baalat Ov, littéralement la maîtresse de l'ancêtre ou la maîtresse de l'esprit de l'ancêtre, expression qui n'est précisément pas employée dans notre texte. Cette observation corrobore l'idée selon laquelle la description d'Ézéchiel 13 ne concerne pas des pratiques nécromantiques, contrairement à l'opinion qui est aujourd'hui dominante dans la recherche. Une autre hypothèse récente, développée par Steiner dans une monographie de 2015, voit dans la description d'Ézéchiel 13 une référence à la capture non pas des esprits des morts, mais des esprits des vivants, errant durant leur sommeil, ce que certains anthropologues désignent par le terme de « dream souls ». Selon Steiner, les femmes décrites en Ézéchiel 13 fabriqueraient des coussins pour prendre au piège les dream souls des membres de la communauté, autrement dit, les esprits qui vagabondent, les esprits des vivants, mais qui vagabondent durant le sommeil de ces derniers. Cette lecture se heurte toutefois également à plusieurs difficultés. D'une part, rien dans le texte n'indique que les esprits capturés par les femmes le sont durant une période de sommeil ou de rêve, et l'hypothèse selon laquelle il aurait existé une catégorie de « dream souls » dans le Levant n'est attestée, à ma connaissance, par aucune donnée concrète. D'autre part, la référence à des coussins qu'utilise Steiner pour son argumentation, des coussins employés par ces femmes, relèvent en réalité d'une tradition d'interprétation secondaire qui est déjà attestée dans la Septante et qui est prolongée dans le judaïsme rabbinique, mais qui ne correspond pas au sens premier du texte. À l'origine, le texte faisait référence non pas à des coussins, mais à des bandes ou des bandelettes placées sur les poignets et la tête des personnes. Cette observation est importante parce qu'elle semble déjà indiquer que les proies capturées par les femmes, selon le texte d'Ézéchiel 13, ne sont pas des esprits qui errent ou qui vagabondent, mais sont bien les personnes qui sont ainsi ligaturées. En résumé, les deux interprétations principales proposées dans la recherche récente, donc selon lesquelles il s'agirait soit de nécromanciennes qui capturent les esprits des morts, soit de femmes qui capturent les esprits des vivants durant leur sommeil, ces deux interprétations principales dans la recherche récente sont problématiques et ne parviennent pas à rendre compte de la description d'Ézéchiel 13 de manière satisfaisante. Comment faut-il alors comprendre ce texte? Pour répondre à cette question, deux principes de méthode doivent être pris en considération. D'une part, il convient de rattacher, lorsque c'est possible, les pratiques décrites en Ézéchiel 13 à la documentation proche-orientale. D'autre part, il faut également distinguer entre les pratiques effectives auxquelles le texte fait référence et la nature polémique de leur représentation. Commençons par revenir sur les éléments qui peuvent être dégagés du texte. Ainsi qu'on l'a vu, l'oracle d'Ézéchiel 13 fait référence à des femmes qui pratiquent une forme de ligature rituelle en posant des bandes de tissu cousus ensemble sur les poignets et la tête. Selon le verset 19, ces femmes pratiquent cette ligature rituelle en échange de poignées d'orge et de morceaux de pain. Il s'agit donc de spécialistes qui sont rémunérés en nature pour leur savoir-faire rituel. Le même verset précise en outre que la pratique de ces femmes profane le dieu Yahvé. Comme l'ont relevé plusieurs commentateurs, cette accusation n'a de sens que si le rituel incriminé impliquait d'une manière ou d'une autre l'invocation de Yahvé, même si le texte ne nous fournit malheureusement pas plus de détails sur le rôle exact du dieu dans ce rituel. Il est possible que le nom de Yahvé était inscrit sur les bandelettes cousues par ces femmes, auquel cas la pratique décrite en Ézéchiel 13 anticiperait d'une certaine manière l'usage des phylactères dans le judaïsme antique. La pratique consistant à placer des assemblages de bandes ou de bandelettes sur différentes parties du corps n'est pas mentionnée ailleurs dans la Bible hébraïque. Mais elle rappelle une pratique bien documentée en Mésopotamie, consistant à lier ensemble des bandes de tissu ou des cordelettes qui sont ensuite disposées sur différentes parties du corps. Ces bandes de tissu ou ces cordelettes servaient souvent elles-mêmes à lier des pierres précieuses ou semi-précieuses, des métaux, voire différents végétaux. Les ligatures de ce type sont essentiellement mentionnées dans le contexte de rituels thérapeutiques ou exorcistiques, ce qui d'ailleurs, dans le Proche-Orient ancien, revient souvent au même. Autrement dit, des rituels destinés à protéger un patient d'un mal. Sans nécessairement postuler une influence directe des pratiques mésopotamiennes, il est vraisemblable, dans tous les cas, que les pratiques de ligature décrites en Ézéchiel 13 avaient également une fonction thérapeutique et prophylactique. Cette interprétation peut également expliquer que les femmes mentionnées en Ézéchiel 13 sont associées à une forme de divination. Au verset 17, elles sont ainsi accusées de prophétiser. En effet, d'autres passages de la Bible hébraïque indiquent qu'en Israël, comme dans le reste du Proche-Orient ancien, la consultation médicale pouvait en réalité inclure le recours à des techniques divinatoires destinées à déterminer la nature du mal. En 2 Rois 5, verset 3, par exemple, Naaman, le chef de l'armée syrienne qui souffre d'une maladie de peau grave, se voit recommander d'aller consulter le prophète qui se trouve à Samarie. Donc je rejoins ici la thèse qui avait déjà été proposée par Nancy Bowen en 1999, qui est l'une des premières à avoir vu qu'il s'agissait très clairement de rituels de guérison, mais Nancy Bowen proposait d'y voir plus précisément des rituels concernant les femmes en couche. Je ne pense pas que le texte nous permette d'être aussi précis, et je ne pense pas que les rituels dont il est question ici soient des rituels spécifiquement destinés à des femmes en couche. Je pense qu'il s'agit plus largement d'une catégorie de rituels de guérison. Toutefois, cette interprétation n'explique pas encore le reproche qui est fait aux femmes décrites en Ézéchiel 13 de prendre au piège les vies des membres de la communauté. Cette accusation, qui est introduite au verset 18 et qui est répétée au verset 20, est prolongée au verset 19 par l'accusation de faire mourir les vies qui ne devraient pas mourir et de faire vivre les vies qui ne devraient pas vivre. Ces accusations impliquent clairement, par conséquent, que la ligature rituelle pratiquée par les femmes judéennes servirait, selon les auteurs du texte, non pas à guérir leurs clients, mais à prendre le contrôle de leur vie. Ici, le texte d'Ézéchiel 13 semble avoir en vue un autre aspect de la ligature rituelle dans le Proche-Orient ancien, qui est un aspect qui est bien documenté par la littérature exorcistique. L'idée selon laquelle la victime d'une forme de magie noire a été magiquement liée par un sorcier ou une sorcière, donc cette idée selon laquelle la victime d'une forme de magie noire a été magiquement liée par un sorcier ou une sorcière, est en effet un thème récurrent dans les exorcismes, notamment mésopotamiens, mais qui était également connu dans le Levant, puisqu'il est attesté par quelques tablettes d'Ougarit préservant des rituels exorcistiques similaires. La fonction de l'exorcisme est alors précisément de délier la ligature magique établie par le sorcier ou la sorcière afin de guérir ou de délivrer la victime. Par exemple, les instructions qui correspondent à la récitation de la quatrième tablette de la collection d'exorcismes Maclou recommandent de lier sept nœuds dans une bande de laine blanche, laquelle représente apparemment la ligature magique affectant la victime, qui est ensuite déliée, après quoi une incantation est récitée. L'idée selon laquelle l'oracle d'Ézéchiel 13 compare la ligature rituelle des femmes à une forme de sorcellerie est corroborée par deux observations. D'une part, l'image employée au verset 18 et 20, selon laquelle, en liant leurs victimes, les femmes judéennes prendraient au piège la nefesh, autrement dit la force vitale de leurs victimes, correspond à un thème bien établi dans les collections d'exorcisme. L'image de la chasse est en effet régulièrement mobilisée dans ces collections pour exprimer le rapport entre le sorcier ou la sorcière et leurs victimes, comparé à une proie dans les filets ou dans les raies du chasseur, comme l'avait déjà noté Angelika Berlin-Jung. La comparaison de la victime en oiseau pris au piège, telle qu'elle est employée en Ézéchiel 13-20, appartient également à ce registre de la chasse et de la prise au piège, comme le montre l'exemple que vous avez ici sous les yeux, donc qui est également tiré de la série Maclou, incantation main-main qui, comme en lion, a saisi l'homme, comme en piège à oiseau, s'est refermé sur le jeune homme, comme en filet, a recouvert le chasseur, sorcier et sorcière, que Guira brûle votre main. D'autre part, une référence à une forme d'exorcisme est explicitement mentionnée dans le texte même d'Ézéchiel 13, au verset 20 à 21, où l'oracle annonce que Yahvé va intervenir pour délivrer les victimes des femmes judéennes en arrachant les bandelettes et les coiffes que ces femmes leur ont fait porter. Le rôle de Yahvé dans ce passage rappelle le rôle dévolu à certains grands dieux du Panthéon dans les exorcismes mésopotamiens, notamment, mais pas uniquement, le dieu Shamash. Ce parallèle est d'autant moins fortuit qu'il existait en culte de Yahvé comme dieu solaire à Jérusalem au fer 2 et que ce Yahvé solaire pouvait apparemment être invoqué dans des rituels apotropaïques, comme le montrent notamment les deux plaquettes d'argent retrouvées à Kétéphrinum, qui sont à dater du 6e siècle avant notre ère et non pas du 7e comme on le pensait auparavant, et qui sont donc à peu près contemporaines du texte d'Ézéchiel 13. Les observations qui précèdent permettent alors de dégager une interprétation cohérente du texte d'Ézéchiel 13. Le texte fait référence à des femmes pratiquant des ligatures rituelles, sous la forme de bandes de tissu cousues ensemble, qui pouvaient éventuellement être combinées à d'autres matériaux et qui étaient disposées sur différentes parties du corps, mais notamment les extrémités. Et le texte mentionne les poignets et la tête, ce qui n'est probablement pas un hasard. Les femmes pratiquant ces ligatures étaient rémunérées en échange de leurs services, comme le dit explicitement le texte, et la fonction de telles ligatures était très certainement d'ordre thérapeutique, comme ailleurs dans le Proche-Orient ancien. Ces ligatures thérapeutiques pouvaient également être précédées par une consultation divinatoire, ce qui explique que les femmes les pratiquant soient présentées comme ayant une activité oraculaire. Toutefois, la visée polémique du texte consiste à travestir l'activité de ces femmes et à interpréter les ligatures rituelles qu'elles pratiquent comme ayant pour but non pas de guérir, mais au contraire de prendre au piège leurs clients pour contrôler leur vie. Ce faisant, les ligatures rituelles sont désormais assimilées à une forme de possession et les femmes qui les pratiquent à des sorcières contre lesquelles le dieu Yahvé est appelé à intervenir pour délivrer leurs victimes. On a donc affaire, dans le texte d'Ézéchiel 13, à une forme de procès en sorcellerie. Des rituels thérapeutiques, vraisemblablement populaires dans la communauté judéenne, sont présentés ici comme une forme de magie noire, et les femmes qui les pratiquent sont identifiées à des agents maléfiques contre lesquels le dieu Yahvé est invoqué. Reste alors, et je terminerai là-dessus, à comprendre la fonction de cette polémique. Pour cela, il convient de replacer cet oracle dans son contexte historique. Plusieurs indices suggèrent que l'oracle contre les femmes judéennes d'Ézéchiel 13 appartient à un stade ancien de la composition du livre et qu'il date par conséquent de l'époque néo-babylonienne, 6e siècle avant notre ère. Cette période correspond à une redéfinition importante des pratiques religieuses de la communauté judéenne, redéfinition qui se fait en lien notamment avec la disparition des structures politiques traditionnelles, la royauté davidique. Le déplacement forcé, donc ça se fait en lien avec la disparition des structures politiques traditionnelles, le déplacement forcé d'une partie de la communauté est l'émergence de diasporas judéennes dans plusieurs centres urbains du bassin méditerranéen. On peut encore mentionner enfin le développement concomitant du culte exclusif du dieu Yahvé. Dans ce contexte et avec ces différents facteurs, on observe logiquement la renégociation de plusieurs aspects traditionnels de la religion judéenne, impliquant simultanément à la fois l'émergence de nouvelles normes rituelles et la disparition de pratiques ancestrales. Ces développements ont des ramifications qui sont à la fois religieuses, économiques et politiques. Le développement à partir du VIe siècle en culte centralisé et standardisé reflète notamment le contrôle accru des élites sur le culte judéen au détriment de plusieurs experts traditionnels, dont les femmes. La polémique d'Ézéchiel 13 doit être comprise à la lumière de ce contexte historique. En présentant des femmes qui sont en réalité des guérisseuses comme des sorcières, le texte marginalise ces femmes et délégitime les pratiques qui sont leur domaine d'expertise. On touche là à une question plus large qui est celle de la construction dans la Bible hébraïque d'un idéal rituel dont les femmes tendent à être systématiquement exclues. Plusieurs textes, et vous avez ça sous les yeux, indiquent qu'il existait en réalité dans l'Israël ancien une grande diversité de pratiques rituelles typiquement associées à des femmes. Parmi les catégories mentionnées, on trouve celles de nécromancienne, Baalat Ov, de prophétesse, Nebiya, de femmes sages, Harama, de guérisseuses, de prostituées sacrées et d'autres encore. Pourtant, à de rares exceptions, ces catégories d'expertes rituelles sont généralement discréditées dans la Bible hébraïque au profit d'expertises rituelles qui sont désormais systématiquement ou presque systématiquement associées à des figures masculines. L'oracle d'Ézéchiel 13 contre les femmes guérisseuses n'est donc pas un cas isolé, mais il a l'avantage pour l'historien de mettre à jour, en quelque sorte de manière exemplaire, les mécanismes d'exclusion qui ont conduit à cette situation, ce que j'ai appelé ici un procès en sorcellerie. Je conclus très rapidement. J'ai montré dans cette communication que le texte d'Ézéchiel 13 fait référence à des guérisseuses pratiquant contre rémunération une forme de ligature rituelle à des fins thérapeutiques et possiblement prophylactiques. L'activité de ces femmes est toutefois travestie dans le texte, de sorte que la ligature rituelle qu'elles pratiquent est présentée comme servant non plus à guérir, mais à posséder et à contrôler leurs clients, assimilant ainsi de facto ces guérisseuses à des sorcières dans la conception proche-orientale. Ce qui est donc en procès en sorcellerie contre ces guérisseuses s'inscrit en réalité, comme on l'a vu, dans une stratégie plus large qui consiste à marginaliser les expertes rituelles dans le cadre du contrôle croissant exercé par les élites judéennes sur le culte à partir de l'époque néo-babylonienne. Cette stratégie de marginalisation qui tend à réserver les rôles rituels essentiellement, voire exclusivement à des figures masculines, ne fonctionnera pas complètement. Et on entendra cet après-midi des contre-exemples dans le cadre du christianisme notamment. Néanmoins, cette stratégie de marginalisation reste et demeure la matrice ou le terreau sur lequel vont se construire les trois monothéismes. Je laisse cette dernière remarque à notre réflexion commune et je vous remercie pour votre attention.